Je suis Zoritza, votre coach en image de soi. Retrouvez-moi tout de suite pour notre capsule de croissance personnelle éclore. Soyez votre plus belle réussite.
Bonjour auditeurs de Radio Gémozo, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule proposée par notre coach Zoritza. Comment tu vas ?
Très bien, merci Lia, merci pour l'accueil, bonjour à tous.
Avec plaisir comme toujours. Tu nous parles aujourd'hui de la gestion des émotions et vous, si vous pouviez gérer vos réactions émotionnelles et en faire une force, qu'est-ce que cela changerait pour vous ? C'est le thème de cette capsule d'aujourd'hui.
Et oui, et c'est une question, tu vois, c'est qu'est-ce que ça changerait pour vous, voilà, si vous saviez gérer vos émotions. Ça vient du fait que dans bon nombre de mes séances de coaching, ça ressort, voilà, une question de des clients, c'est j'aimerais enfin savoir gérer mes émotions, arrêter de me mettre en colère, d'exploser, arrêter de perdre mes moyens, et puis savoir quoi répondre, des fois dans des situations hein, où je me sens en difficulté. Donc, savoir gérer ses émotions, finalement, permet de contrôler non pas ce que l'on ressent, mais plutôt ce que cette émotion va impliquer par la suite, c'est-à-dire le résultat que je vais avoir dans la situation. Parce que le problème, ce n'est pas l'émotion, mais c'est les résultats obtenus suite à l'attitude que j'ai mise en place suite à cette émotion. Par exemple, on dit souvent, non mais c'est la colère, voilà, faut pas se mettre en colère, c'est pas bien. Bon, après, outre le jugement, c'est autre chose, mais la colère, elle est souvent perçue comme quelque chose qu'il faut éteindre ou empêcher. Alors que le problème, ce n'est pas la colère. Hein, parce que souvent, on dit, bah oui, non, mais la colère, ça crée des situations compliquées après. Non, ce n'est pas la colère qui crée les situations compliquées, c'est l'attitude que moi, je décide d'avoir en ressentant de la colère. Donc, ça m'appartient toujours revenir à sa propre responsabilité. Je suis responsable de ce que je pense, de ce que je ressens et de ce que je fais. Hein, donc, mon ressenti, c'est à moi d'apprendre à l'identifier, à le comprendre. Et finalement, savoir gérer ses émotions, c'est s'autoriser à oser enfin dire ou faire ce qui est important pour moi. C'est enfin arrêter de faire plaisir ou avoir peur de déplaire, de décevoir, avoir peur de blesser. Hein. Et enfin, se détacher de ce que l'autre pense. Hein. C'est vraiment la difficulté. C'est là où on est contraint, bien souvent, dans nos attitudes, dans nos comportements. On est contraint par... cette emprise hein, quelque part du groupe qui va me contraindre à adopter un comportement qui n'est pas forcément celui que j'ai envie d'adopter. Donc ce que je vous propose effectivement ici, c'est une approche du mécanisme des émotions hein, qui, voilà, avec une compréhension issue des neurosciences, mais très rapidement. Voilà, on est sur une capsule assez courte, donc on n'a pas 3 heures. Explorer vraiment le rôle, identifier, savoir les nommer de manière efficace. Donc, une fois que je comprends le message de l'émotion, je vais comprendre également que cette émotion, elle attend une action. Et bien souvent, cette action, nous n'en avons pas conscience. Hein, donc, elle n'est pas faite. Et du coup, le processus n'est pas désamorcé. Hein, donc, ça reste là. Et finalement, une fois que je connais les enjeux, ben, je vais être capable d'utiliser ce mécanisme de manière efficace et de développer l'intelligence émotionnelle. Hein, parce qu'il y a différents types d'intelligence et l'intelligence émotionnelle, c'est une compétence qui s'acquiert et qui se développe, hein, comme énoncé par le docteur Daniel Goleman, docteur en psychologie, qui a écrit l'intelligence émotionnelle en 1995. Et selon lui, l'intelligence émotionnelle est le meilleur prédicateur de succès et de réussite. En apprenant à accepter nos ressentis, nous développons nos compétences et nos aptitudes. Donc nous sommes ainsi capables de percevoir, maîtriser et exprimer nos sentiments et émotions, ainsi que ceux d'autrui. Donc j'améliore aussi mon intelligence relationnelle. Quand je comprends comment moi je fonctionne, et ben je comprends mieux aussi comment l'autre fonctionne et je suis capable de l'accueillir d'une meilleure manière dans notre échange interpersonnel. Donc, finalement, c'est la forme d'intelligence qui influe sur notre self-control, notre motivation, notre intégrité, mais aussi sur nos relations, effectivement, avec les autres, hein, comme on l'a vu. Et il ne s'agit ici ni de rejeter ses émotions, ni de les nier, car on ne veut pas vivre, on ne peut pas vivre sans émotions. Hein, moi, j'ai des clients, des fois, qui me disaient « Oh là là, j'aimerais tellement ne plus rien ressentir ». Bon, non. Moi, je leur explique que oui, c'est possible, mais c'est pas de votre vivant. Jusque-là, du coup, on cherche une autre solution. Voilà. Donc, les émotions que nous éprouvons nous font sentir plus vivants et servent à quelque chose. Elles ont véritablement leur utilité dans notre équilibre. Puisque tout comportement, il faut savoir qu'il est sous-tendu par une émotion. L'émotion, elle nous différencie aussi de l'animal, puisque l'être humain est le seul animal à avoir cette capacité de créer lui-même des états déplaisants sans qu'il y ait de facteurs extérieurs immédiats. Je peux me raconter l'histoire que je veux, me sentir en stress, tout simplement parce que je me raconte une histoire qui me fait peur, qui m'inquiète, une situation où je vais me sentir pas assez ceci, trop cela, etc. Donc je vais générer ce sentiment, cette décharge d'hormones du stress, simplement parce que j'ai pensé. Donc je ne sais pas si les poules, peut-être que les animaux se créent et se génèrent du stress, mais ça n'a pas encore été prouvé qu'elles se racontaient une histoire parce qu'elles s'inquiétaient de l'échange qu'elles vont avoir demain avec d'autres poules. Bon. Donc c'est là que réside notre pouvoir finalement. C'est vraiment de créer mentalement des ressentis plaisants ou déplaisants. Et donc si on avait cette conscience de ces mécanismes, je crois que tout le monde choisirait de vivre dans un état plaisant tout le temps. Alors que là, ce qui se passe, c'est qu'on a des mécanismes sous-jacents inconscients qui finalement ne sont pas identifiés et qui font que je vais créer moi-même des pensées qui vont me faire ressentir des choses désagréables. Donc mon pouvoir, effectivement, ça va être également d'adapter ma réaction face à ce ressenti est impactée par là même mon environnement, hein, puisque l'interaction que j'ai avec mon environnement, ce que j'en vois, mon environnement reçoit des choses et me renvoie également quelque chose. Hein. Donc finalement, pourquoi gérer ces émotions? Parce que y a des personnes qui disent « Non mais moi c'est bon, j'en suis toujours sortie, je pique une bonne colère et puis après les choses avancent comme je veux. Hein. » Bon, bah, ok, si ce comportement n'est pas préjudiciable à la longue, hein, comme on l'a dit, observez les résultats que vous avez. Si les résultats, bah, vous êtes ok avec ça, continuez comme ça, il n'y a pas de souci. Il ne s'agit certainement pas de changer. Qui ne veut pas changer? Le changement, c'est une décision personnelle. On ne peut pas obliger quelqu'un à changer, hein, si cette personne n'a pas conscience que le changement va lui apporter quelque chose de plus satisfaisant, hein, que le confort, entre guillemets, qu'elle connaît dans une situation des fois qui est douloureuse ou même difficile. Donc finalement, notre monde, on est dans un monde d'accélération qui fait qu'on a très peu de temps pour avoir des pauses où on peut reposer notre esprit. Et gérer nos émotions, ça va nous permettre justement d'améliorer notre énergie et éviter d'être préoccupé par mille choses en même temps. Ça va nous permettre aussi d'améliorer notre santé, hein, et éviter de somatiser, puisque le stress, par exemple, crée du cortisol, hein, c'est une hormone qui est du poison pour notre corps à haute dose, et toutes ces hormones voilà, du stress, elles impactent directement notre santé, puisque le cortisol va impacter le système immunitaire, il va inhiber le système immunitaire. Donc une personne qui est en proie très fréquemment au stress, va être aussi plus souvent malade. Voilà, donc c'est le lien qui se fait sur la santé. Et gérer nos émotions va nous permettre également d'améliorer nos relations pour éviter effectivement les malentendus, les situations conflictuelles qui épuisent tout le monde. L'idée, c'est vraiment d'optimiser notre temps et notre efficacité, éviter de perdre du temps dans des explications suite à des incompréhensions. Donc, votre bénéfice, finalement, à utiliser intelligemment vos émotions, c'est de reprendre votre pouvoir de créer la vie qui vous inspire. Enfin, moi, j'aime bien, c'est vraiment c'est ma ligne directrice, hein. Créer la vie qui vous inspire. Et pour ce faire, c'est prendre conscience de comment je fonctionne et mettre en place des outils de croissance pour pouvoir améliorer tout ça. Donc, si on définit dans un premier temps le mécanisme de l'émotion, donc, une émotion, qu'est-ce que c'est? C'est déjà une réaction d'ordre physiologique, hein, qui se retranscrit physiquement, même si on peut jouer, comme on dit, à cache-cache avec certains signes extérieurs, hein, on peut apprendre à contrôler sa posture, on ne peut pas toujours échapper à la réponse physiologique. Hein. Il y a le rythme cardiaque qui s'accélère, la transpiration, les rougissements. Donc ça, c'est physiologique, ça nous impacte directement. Et une émotion, elle est également déclenchée par une situation extérieure, qui va être perçue par les cinq sens, hein, donc qui est effectivement, ça peut être une voiture voilà, qui arrive, donc je perçois ce facteur extérieur qui va me déclencher de la peur, mais elle peut aussi être déclenchée par notre mental, comme on l'a vu, nos pensées, nos souvenirs ou les projections futures. C'est souvent ce qu'on ressent est issu de toute manière vient d'une pensée. Le cycle, c'est une pensée qui génère une émotion qui me fait passer à l'action. Et cette émotion, elle est issue également de notre inconscient. Finalement, c'est une réponse préprogrammée de l'inconscient qui a stocké tous les marqueurs somatiques depuis le début, depuis mon histoire, tous mes souvenirs, puisque un souvenir, c'est un événement plus une émotion. Si je n'ai pas d'émotion, je n'ai pas de souvenir. Je ne me rappelle pas de la situation. Si je n'ai pas calculé ce qui s'est passé, si je n'ai pas ressenti quoi que ce soit agréable ou désagréable, il n'y a pas de marquage somatique qui se fait. Donc, il n'y a pas de la base de données du cerveau. En fait, il ne va pas s'encombrer de choses qui ne sont pas importantes. Et c'est là où, finalement, le rôle des émotions, on va le préciser, il est essentiel. C'est-à-dire qu'il est là pour attirer notre attention sur une situation. Sur une situation, qu'elle soit agréable ou désagréable. Mais effectivement, c'est comme les tableaux de bord de notre voiture, où on a des petits voyants voilà, qui s'allument, on a des pictogrammes voilà, qui sont associés et qui nous permettent d'identifier l'anomalie qui est annoncée. Donc si j'ai un pictogramme qui s'allume avec une jauge d'essence, je sais qu'il y a une action qui est attendue. Donc l'émotion, c'est exactement ça, c'est son rôle, c'est un indicateur, c'est un voyant lumineux qui s'allume. Et le problème, c'est que je n'ai pas le message, on ne connaît pas toujours, on n'a pas identifié quelle est l'action qui est à faire, parce que je n'ai pas ce petit pictogramme qui est associé. Et finalement, l'émotion, quand il y a une émotion qui arrive et que je n'ai pas appris à la nommer, à l'identifier et savoir quoi faire après, c'est comme si vous aviez votre tableau de bord avec un gros voyant rouge et que un jour, il y a le gros voyant rouge qui s'allume. Voilà, ok, bon, je fais quoi? Bon, la voiture continue à rouler, je vais continuer à rouler. Ok, bon, je continue à rouler, ok. Et puis un jour, vous avez un ami voilà, qui monte dans la voiture, qui dit, c'est quoi ton gros voyant rouge là? Oh, je sais pas, moi, ça fait longtemps qu'il est allumé. Bon, écoute-moi, tant que ça roule, hein. Ouais, mais là, t'as pas l'impression qu'on roule pas très très vite, qu'on pourrait rouler plus vite, on pourrait... Puis ça fume quand même fort, c'est pas normal. Non, mais c'est bon, attends, moi, tant que ça avance, voilà. C'est aberrant, je dirais jamais on pourrait parler ou on pourrait considérer ça de la part de quelqu'un avec sa voiture. Par contre, c'est ce qu'on fait pour soi. C'est, on n'a pas identifié voilà, nos petits pictogrammes, on ne sait pas voilà, les nommer, et on ne sait pas quel est le message et l'action qui est attendue. Donc là, c'est ce que je vais vous partager voilà, un petit peu plus loin sur voilà, le rôle des émotions. Donc, ça attire notre attention, mais il y a un autre rôle, comme on l'a vu, c'est de nous mettre en action. Donc l'émotion, elle vient après une pensée et elle nous permet de faire des choix rapidement puisque je sais, grâce à mon émotion, est-ce que j'ai peur, est-ce que j'ai pas peur, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Voilà, des fois, on sait très très vite et on va faire des choix par rapport à ça. Donc finalement, quand je prends conscience des émotions qui sont... finalement c'est des pépites hein, c'est des indicateurs, j'ai une véritable base de données à ma disposition pour pouvoir faire mes choix rapidement. Autre rôle des émotions, donc troisième rôle identifié, c'est le rôle qui est joué dans la conformité sociale. Donc là on peut également parler d'intelligence interpersonnelle. Donc c'est comprendre que effectivement les comportements humains coopèrent et manifestent de la sensibilité, de l'empathie. On agit, on réagit avec les autres, on aime partager, travailler en groupe. Donc ces émotions, elles vont être un élément fondamental finalement dans notre lien avec les autres et également dans l'ordre social. C'est-à-dire que il y a cette dimension de conformité sociale. Le groupe va agir sur l'individu pour qu'il acquiert non seulement des savoirs cognitifs mais aussi des savoirs émotionnels qui sont valorisés et préconisé dans le groupe social dont il fait partie. Par exemple, On a des émotions, donc on va voir les émotions, la 6 émotions de base, hein, donc la peur, la colère, la surprise, la joie, le dégoût, la tristesse. Mais il y a des émotions qui sont, issues de cette conformité sociale. C'est pas des émotions instinctives. Hein. Donc là, on est vraiment dans cette approbation ou désapprobation du groupe qui va faire que l'individu va s'orienter différemment dans ses chemins socialement prescrits. Et il y a cette emprise, ce contrôle qui est exercé. C'est véritablement le code émotionnel qui peut être aussi variable entre la culture et l'époque. D'une culture à l'autre, il y a des choses, des attitudes qui sont bien perçues dans notre culture occidentale, mais qui ne vont pas l'être en Orient, et vice-versa. Donc c'est comprendre que la honte, la fierté, la culpabilité, voilà, tout ça, c'est des émotions qui sont construites par le groupe social pour conformer l'individu dans son comportement. Et le dernier rôle de l'émotion, c'est la construction de soi. Donc là, on parle d'intelligence intrapersonnelle. C'est la conscience de soi, de se comprendre, de définir ses objectifs personnels, d'analyser ses propres émotions, de recueillir, de recueillir finalement cette connaissance de quels sont mes points forts, quels sont mes points d'amélioration, et prendre conscience que l'autre n'est pas moi. Donc c'est moi ce que je ressens, c'est pas ce que toi tu peux ressentir, et vice-versa. Donc ça permet aussi d'améliorer cette intelligence de relation interpersonnelle. Donc finalement, savoir identifier les émotions, comme on l'a vu, y a 6 émotions de base que je vous propose pour faire assez simple. La colère, la peur, la surprise, la joie, le dégoût et la tristesse. Avec chacune, effectivement, une intensité, une déclinaison de l'intensité, puisqu'effectivement, dans la catégorie, dans la famille de la colère, on peut être agacé, on peut être agressif, on peut être contrarié, on peut être haineux, on peut être furieux. Donc tout dépend effectivement du degré d'importance de la situation. Ensuite, on peut voir des émotions, des sentiments plutôt secondaires, par exemple le désir, la sérénité, l'inquiétude, et ensuite des émotions d'arrière-plan, dont le calme, le plaisir, la fatigue, le stress. Et finalement, ces dérivés dont on parlait précédemment, des dérivés qui sont issus de la socialisation, donc la honte, la culpabilité, la frustration, la jalousie, l'envie, ou encore le mépris. Dans ce vaste univers d'émotions, c'est difficile, effectivement, de savoir. Tant que je n'arrive pas à mettre un mot précis, c'est délicat de pouvoir exprimer ce que je ressens si je n'ai pas les mots. Et souvent, dans notre communication, c'est la difficulté, c'est-à-dire que je ressens des choses qui sont tellement fortes, tellement intenses, mais je n'ai pas les mots pour le dire. Donc je n'arrive pas à communiquer à l'autre ce que je ressens, et la communication interpersonnelle, elle s'en fait ressentir. Donc on a effectivement des fois des difficultés, des conflits, des incompréhensions qui sont issues simplement parce que je n'ai pas les mots. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir aussi, vous trouverez plein d'infos complémentaires aussi sur les émotions, sur trouver les mots, quelles sont vraiment les émotions qui vous parlent dans certaines situations pour pouvoir vous faire comprendre de manière plus efficace. Et la seule émotion, finalement, qui est agréable, c'est la joie. Donc, on a parlé des 5 autres qui sont désagréables. Donc, y a pas, moi, je ne parle pas d'émotions positives ou négatives, non. Toutes les émotions, elles sont justes. C'est juste des indicateurs. Donc, elles sont agréables ou désagréables. Et elles vont m'indiquer, est-ce qu'un besoin est nourri? Donc là, c'est la joie, c'est la sérénité, je me sens, je suis dans l'émerveillement, je suis bien. Ou bien, si j'ai un besoin qui n'est pas nourri, c'est là où je vais ressentir de la frustration, de l'insatisfaction, de la colère, de la surprise, toute cette déclinaison, finalement, d'émotions désagréables. Donc là, il suffit juste vraiment de se poser la question, à l'instant, qu'est-ce que je ressens? Comment est-ce que je me sens? Alors, il y a des personnes qui disent, moi, je ne sais pas, je me sens bien, je me sens bien parce que j'ai pas mal. Donc, ça peut être chacun sa manière de déceler comment il se sent. Et cette émotion, cette seule émotion agréable, moi j'ai envie de vous dire que c'est celle qui nous définit, c'est notre essence. Quand on arrive au monde, en fait, on est une boule de joie, on est rempli que de joie. Voilà, quand vous regardez un enfant d'un an, deux ans, trois ans, il s'émerveille de tout, il est curieux, il est joyeux. Et sa joie, finalement, elle n'est obscurcie que par une gêne. Son camarade lui a pris sa petite voiture, colère, ou il va y avoir une réaction, un comportement qui va être aussi puissant que ce qu'il ressent. Hein. Donc, on n'apporte pas de joie, on lui retire une gêne. On ne peut pas apporter quelqu'un qui va être triste. On ne peut pas se dire souvent, ce qu'on fait, c'est que on va aller voir la personne, et puis allez, viens, sors, on va bouger, ça va te faire du bien, ça va te changer les idées et tout. Oui, c'est une possibilité, sauf que ça ne résout pas, ça ne ramène pas la personne dans le bien-être. Ça, on est juste en train d'être dans une stratégie de fuite, hein, et l'idée, c'est de prendre conscience de « Ok, qu'est-ce que je ressens ?» Bon, là, je ressens de la tristesse. La tristesse, c'est qu'on va voir plus en détail juste après. Elle va pas, elle a pas besoin d'agitation. La tristesse, elle a besoin d'être accueillie, elle a besoin d'être entendue. Et ce qu'elle attend comme action, c'est juste de faire un état, finalement, de prendre ce moment d'observation, d'écoute, pour faire un état des lieux. La tristesse, elle indique qu'il y a une rupture de lien. Alors, soit avec une personne, soit avec un projet. Donc, si j'ai un projet qui n'a pas abouti, ou si j'ai une relation qui s'est terminée, je vais ressentir de la tristesse. Et c'est OK, c'est normal. Sauf que bien souvent, on élude un petit peu cette phase d'accueil de la tristesse. On se dit, ouais, non, mais c'est bon. Et on va être parti peut-être sur d'autres émotions qui vont nous détourner de l'importance de cette tristesse. Et quand j'écoute la tristesse, j'écoute aussi ce qu'elle me dit, de quoi j'avais besoin, que je n'ai pas eu. Qu'est-ce que je n'ai pas nourri chez moi non plus, hein, parce qu'il ne s'agit pas simplement de remettre la faute sur l'autre. Hein. Nous sommes responsables, comme on l'a vu dans une précédente capsule, nous sommes responsables de nourrir nos propres besoins. Hein, donc les stratégies comportementales que l'on met en œuvre, elles nous appartiennent. Et à partir du moment où je ressens quelque chose de désagréable, c'est à moi qu'il appartient de revenir dans mon état de bien-être. Et ce ressenti de tristesse, par exemple, ok, ça va être le moment de faire le point. Qu'est-ce que j'ai vécu qui m'a plu, qui m'a déplu? Vers quoi j'ai envie d'aller? Vers quoi j'ai envie de me projeter? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que j'accepte pas? Plus je vais être à l'écoute de moi, plus mon voyant, finalement, il va pouvoir s'éteindre. Parce que si je ne fais pas l'action correctrice, le voyant reste allumé. Et tant que je ne vois pas, tant que je n'identifie pas ce voyant-là, c'est comme si sur votre tableau de bord, vous avez un voyant qui est allumé, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, et puis je ne fais pas ce qu'il y a à faire, donc je vais mettre un scotch. Hein, je vais le cacher parce que il m'éblouit un petit peu, il m'agace ce voyant. Donc je mets un scotch, je le cache. Ce n'est pas pour autant que c'est réglé, il n'y a rien de réglé. Et on a parfois, cette habitude de considérer ce qui n'est pas normal comme normal. C'est pas normal d'être tout le temps en proie au stress. C'est pas normal d'être tout le temps en proie à la colère. C'est pas normal d'être en proie tout le temps à la tristesse. Ponctuellement, oui, mais pas tout le temps. Hein, les émotions, elles sont là pour... C'est un voyant qui s'allume et qui attend une action pour s'éteindre. Hein. Et comme on disait, on enlève cette gêne pour retrouver sa joie. La joie, c'est vraiment cette boule qui brille, qui nous remplit. Et on est plein de joie, naturellement. C'est la base. Donc, comme je disais, on n'apporte pas de la joie à quelqu'un, on retire cette gêne. Et pour soi, c'est pareil. On ne peut pas... c'est pas parce qu'on va aller sortir dans un endroit où il y a du monde, concert, etc., que je vais me sentir mieux. On peut se sentir très, très seul, très, très triste, entouré de plein de monde. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience que toutes nos émotions, elles ont vraiment une action réparatrice. Hein, comme par exemple la colère, sa valeur réparatrice, c'est de restaurer l'intégrité et d'établir des limites. La colère n'est synonyme ni de violence ni de stress. Hein, mais bien souvent, comme on l'a vu, on a peur de la colère parce que le résultat, quand on n'a pas su gérer, on n'a pas su utiliser ce message, on n'a pas choisi la bonne attitude. Et du coup, j'ai eu un résultat qui n'était pas top. L'idée, c'est vraiment de pouvoir évaluer votre niveau de joie dans les différents domaines de vie. Donc, pour ça, il y a un outil que j'aime beaucoup. Ça s'appelle la roue de la vie. Donc là, pareil, je vous invite à me contacter pour vous. Voilà, je vous transmettrai. J'ai un petit livret qui fonctionne très bien avec cette définition de la roue de la vie et comment la remplir. Mais voilà, vous pouvez trouver d'autres supports aussi. C'est de prendre conscience que si je reprends une partie de mon pouvoir décisionnaire, je vais pouvoir faire enfin des choix conscients. Donc dans chaque domaine de vie, couple, famille, santé, amis, vitalité, finance, environnement, développement perso, carrière, dans chaque domaine de vie, je vais aller établir mon niveau de satisfaction d'aujourd'hui. Voilà, je vais faire un petit diagramme. Voilà, entre 1 et 10, j'en suis à combien sur mon niveau de satisfaction? Et après, je fais un autre diagramme. À quel niveau, idéalement, est-ce que j'aimerais en être? Voilà. Et c'est là où, dans le domaine de vie dans lequel il y a le plus grand delta, qui va être important et urgent de mettre en place des actions. Des actions correctrices, des actions pour rétablir ce niveau de bien-être et de satisfaction. Donc rapidement, si voilà, je pense qu'au niveau de la liste des émotions, ça peut être intéressant d'avoir le message et l'action qui est attendue. Donc par exemple, la joie, le message qu'elle indique, c'est une réussite, une gratitude. C'est que, voilà, il y a quelque chose qui est bien. L'action qui est attendue, c'est du lien, c'est de partager. La joie, elle attend d'être partagée. C'est vrai que des fois, quand on a une belle émotion comme ça de joie, mais qu'on n'arrive pas à la partager, ben, qu'est-ce qui arrive? On a ce petit nuage là de tristesse qui arrive parce que ben, je n'ai pas pu créer de lien. J'avais un projet, par exemple, ben, je voulais partager, faire une soirée avec mes amis et puis personne n'est disponible. Et je me retrouve toute seule et puis je suis pas bien. Et là, c'est la tristesse qui va arriver. Et comprendre que ben, je peux aussi revenir dans mon état de joie parce que j'identifie ma tristesse, ok, bon, ben, ma tristesse, ben, je t'écoute, je t'ai entendu, d'accord. Ben, là, je décide que je peux aussi être en joie, même si je suis seule. Ça ne m'empêche pas. Donc, c'est chacun va trouver, j'irai, sa méthode hein, pour revenir dans cette dimension-là. La peur, par exemple, elle indique qu'il y a un danger réel, s'il y a une voiture qui arrive et que je traverse sans regarder, ou imaginé. Hein, parce que ce danger, ça peut être simplement l'histoire que je vais me raconter par rapport à un rendez-vous que j'ai demain, un entretien que je vais avoir, une formation, une action que j'ai à faire et qui me met en inquiétude parce que je me projette dans le futur. Et dans le futur, le cerveau, bien évidemment, il n'a pas de référence. Hein, vous rappelez cette base de données de souvenirs, il n'a pas de référence parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, je suis juste en panique. Donc ça, c'est le biais normal qui va se mettre en place. Donc c'est à moi qu'il appartient de, quand j'identifie que je ressens de la peur parce que je suis en train de me faire une histoire, ok, je change mon histoire pour revenir dans mon bien-être. Autre émotion, la surprise. La surprise, elle indique qu'il y a quelque chose d'inattendu. Voilà. J'avais un projet, un plan, quelque chose, bon, ça ne se passe pas comme ça, surprise. C'est pas toujours, le cerveau, il n'aime pas les surprises, hein. Ça va 2 minutes, mais à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Parce qu'on dit, oui, mais les surprises, oui, c'est, quand c'est agréable, oui, mais à un moment donné, c'est compliqué parce que le cerveau, ça l'oblige à revoir ses plans, à faire face, à imaginer une nouvelle stratégie. Donc ça, c'est fatigant. Le cerveau, il adore les habitudes. Voilà, c'est un peu cette routine qu'on peut mettre en place en étant vigilant de quelle routine est-ce que je mets en place. On l'a vu dans une précédente capsule sur les habitudes que je vais mettre en place et qui vont faire que ces habitudes, elles vont créer la personne que je vais devenir aussi. Troisième émotion désagréable, le dégoût. Alors le dégoût, lui, il m'indique qu'il y a une nocivité. Voilà, ça peut être une situation hein, ou des personnes. Quand on dit une situation toxique ou des personnes que j'estime, voilà, des personnes toxiques. Donc là, mon besoin, c'est un besoin de survie, hein, c'est de me mettre en sécurité. Hein, toujours pareil, de qu'est-ce que je peux faire pour que cette situation, je revienne dans un état de bien-être. Quatrième émotion désagréable, la tristesse. Donc la tristesse, elle indique, comme on l'a vu, une perte, une séparation avec quelqu'un, avec un projet. Et là, elle a juste besoin de lien et d'être accueillie, d'être acceptée, d'être écoutée. Et c'est là où je vais poser mon bilan de ce qui s'est passé, de ce vers quoi je peux aller. Peut-être pas dans un premier temps, parce que se projeter dans le futur quand on est dans la tristesse, c'est pas encore le moment. Mais au moins faire le bilan de ce que j'ai vécu, ça permet d'accueillir la tristesse et de peut-être se reconnecter à de la gratitude. Hein, qui est une émotion vraiment pleine et épanouissante, dans le sens où je regarde ce que j'ai et je ne me focalise pas sur ce que je n'ai pas. Et la dernière émotion désagréable, c'est la colère. Donc la colère, elle indique qu'il y a une injustice, voilà, une frustration très forte. Et là, j'ai besoin de défendre mes droits. Voilà, j'ai besoin de mettre en action quelque chose qui va faire que je vais me sentir respectée. Donc voilà, ça c'était rapidement, hein, très rapidement sur cette partie des messages des émotions. Et donc finalement, ce qui vous appartient de faire, c'est de déterminer votre profil face aux émotions. Et là, on a deux profils principaux. Il y a les personnes qui se laissent complètement mener par les émotions, emportées. Donc là, c'est plutôt une certaine impulsivité, une fréquente recherche de nouveautés qui vont faire que des fois, vous sentez un peu comme un panier percé. Hein. Ça peut être du jeu compulsif, ça peut être des conduites à risque, une hypersensibilité, une anxiété majeure. Et là, pour rééquilibrer effectivement et reprendre votre plein pouvoir, il sera préférable d'apprendre à reconnaître ces influences émotionnelles et à les mettre à distance, temporiser, raisonner, prendre un avis extérieur, apprendre à réguler vos émotions en prenant conscience que finalement vous êtes sous leur influence et apprendre à vous détacher pour poser l'action après une phase de réflexion et non plus dans l'impulsion. Et l'autre profil, effectivement, c'est les personnes qui sont dites plus rationnelles, voilà, qui ont une anxiété modérée, qui sont plutôt, comme elles se disent, voilà, cartésiennes, perfectionnistes. Il y a aussi ce côté never complain, c'est vraiment le soi fort hein, qui est là. On va valoriser l'intellect aussi, il y a le contrôle de soi. Et c'est des personnes qui vont ignorer leurs émotions. Donc ça, c'est un peu le piège et la clé, je dirais, pour rééquilibrer ça et revenir sur ce pouvoir hein, de gérer les situations. C'est d'avoir cette capacité vraiment à apprendre, à ressentir les émotions et laisser parler les intuitions avant de décider. Donc là, vous apprendrez effectivement à sortir des raisonnements et des tableaux Excel, par exemple, à prendre de la distance et à pratiquer la conscience du présent avec différentes méthodes voilà, de relaxation, par exemple. Voilà pour ce
tour d'horizon.
Ouais, c'est un tour. Alors c'est assez rapide hein, parce que c'est quand même c'est un vaste domaine sur lequel voilà je fais aussi des ateliers ouverts aux particuliers. Donc voilà, si les personnes sont intéressées pour aller plus loin vraiment dans cette prise de conscience, dans cette connaissance et cette mise en pratique de comment je peux gérer les émotions, n'hésitez pas à me contacter.
Bah oui, sur ton site internet ou les réseaux sociaux.
C'est ça. Alors mon site www.a-to-z.fr. Réseaux sociaux, donc Facebook, sur ma page pro A2Z Conseil et Coaching, sur LinkedIn, donc Zoritza Vucic, et sur Instagram, A2Z Conseil et Coaching.
Voilà, en espérant que ces quelques mots vous aient donné envie d'aller explorer vos émotions et de vous comprendre vous-même, bien sûr. Je pense que c'est là la clé. Merci beaucoup, Zoritza, pour, comme d'habitude, ces précieux conseils.
Merci, Lydia, pour ton accueil.
À bientôt.
À très bientôt.